Grande Interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons parler des affaires aujourd'hui. Vous savez, il s'est tenu du 6 au 7 novembre dernier à Kinshasa, la 8e édition de la conférence sur le commerce et les investissements. Sur le commerce et investissements, il y a eu des partenaires sud-africains qui étaient de la partie. Et puis, la conférence s'est délocalisée pour se tenir aussi à Lubumbashi. Alors aujourd'hui, avec le ministre de l'Industrie, Monsieur Marcel Ilunga Lehu, nous allons parler de cela et puis savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le climat des affaires, pour permettre aux investisseurs de venir investir dans notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre Marcel Ilunga Lehu, encore une fois, bonjour.
Merci, Jody.
Alors, parlez-nous de cette conférence, 8e édition de la conférence sur le commerce et l'investissement. Comment est-ce que tout cela s'est passé?
Alors, cette conférence qui s'est tenue ici à Kinshasa et qui s'est prolongée à Lubumbashi est la résultante d'un accord bilatéral qui existe entre l'Afrique du Sud et la RDC, qui ont été signés par nos deux chefs d'État, Joseph Kabila Kabange et pour la RDC et Jacob Zuma pour l'Afrique du Sud. Et à l'issue ou à marge de cet accord, il y a eu le comité bilatéral national, comité bilatéral qui a été créé de travail, qui doit assurer le suivi de toutes les résolutions prises par les deux chefs d'État. Et ce comité bilatéral de travail a été signé par le ministre de l'Industrie pour la République démocratique du Congo et le ministre du Commerce et de l'Industrie pour l'Afrique du Sud. Mmh. Et c'est également en marge de ce comité bilatéral que se tient presque chaque année un forum de l'initiative pour le commerce et l'investissement entre les investisseurs sud-africains et les opérateurs économiques de la RDC.
Alors pour cette édition, quelles sont les retombées, je peux dire, quelles sont les retombées que vous avez qu'on a de cette conférence qui s'est tenue à Kinshasa et à Lubumbashi aussi.
Oui, je voudrais signaler que le 8 et le 7, on a tenu d'abord la 5e édition du comité bilatéral qui a évalué pratiquement tous les accords qui ont été signés entre la RDC et la République sud-africaine, ainsi que ce forum. Ce forum qui a réuni les opérateurs économiques de l'Afrique du Sud et ceux de la RDC. Et il y a eu débat, il y a eu des discussions tout à fait fructueuses en rapport avec les affaires.
Et surtout dans les domaines de l'agriculture.
Le domaine de l'agriculture, même aussi dans le domaine de l'industrie, et aussi dans le domaine du tourisme, les petites et moyennes entreprises. Mmh. Donc, pratiquement dans tous les secteurs de la vie nationale. Comme vous le savez, l'Afrique du Sud est un partenaire privilégié. Et celui-là, il y a des investisseurs qui tiennent à investir dans notre pays et ils viennent de temps à autre. Voilà pourquoi est-ce que on a tenu cette conférence. Mais dans le cadre du comité bilatéral, on a évalué tous les accords qui ont été signés ainsi que les résolutions qui ont été prises à la 10e session de la grande commission mixte qui s'est tenue en Afrique du Sud entre nos deux chefs d'État. Alors on a évalué accord par accord pour voir qu'est-ce qui n'a pas tenu et qu'est-ce qui a tenu, et on a fixé toutes les dispositions prises pour l'amélioration et qu'on puisse respecter les uns les autres les conventions librement signées.
Voilà, on a souvent entendu qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir ici dans notre pays investir, mais souvent il y a un problème, le climat des affaires n'est pas toujours très très bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer le climat des affaires, pour permettre aux investisseurs de venir et investir chez nous en RDC?
Je crois que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et le gouvernement de la République font déjà assez pour améliorer le climat des affaires. Vous suivez presque chaque jour, il y a eu dernièrement ici un colloque qui s'est tenu sur la fiscalité de développement. Et en dehors de ça, il y a le code d'investissement, il y a également les accords qui sont signés pour alléger aux investisseurs, surtout quand ils veulent amener les capitaux frais, mmh. on essaie de leur accorder tous les avantages nécessaires, leur permettant de pouvoir s'installer sans beaucoup de problèmes. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est lutter contre la tracasserie fiscale et essayer de réduire au maximum les intervenants auprès des investisseurs. Et à ce moment-là, bien sûr, améliorer aussi le climat politique pour permettre aux investisseurs d'amener leurs capitaux.
Alors, en parlant, par exemple, des avantages qu'on accorde aux investisseurs, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quels sont ces avantages? Y a-t-il des exonérations?
Oui. Il y a, par exemple, pour tous les équipements qu'un investisseur doit amener, il y a exonération. Vous ne pouvez rien payer sur les équipements que vous amenez.
Il y a aussi, quel genre d'équipement?
Supposons si vous voulez installer une usine, vous allez acheter les machines, vous allez acheter tout ce qu'il vous faut pour installer l'industrie, l'usine, ou si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, les tracteurs et tout ce qui concerne l'agriculture, ça entre dans notre pays sans payer les impôts et taxes. Ça, c'est un avantage. Et ensuite, vous savez...
Donc, pas des douanes, il y a des exonérations à tous les niveaux.
Okay. Vous ne payez rien, ça entre. Et ensuite, comme vous le savez, je suis ministre de l'Industrie, il y a ceux qui s'installent dans les zones économiques spéciales. On leur donne la terre gratuitement et il y a encore d'autres avantages spécifiques de ceux-là qui s'installent dans les zones économiques spéciales.
Donc, en plus, c'est quoi, zones économiques spéciales?
La zone économique spéciale, en deux mots, c'est tout simplement une portion de terre déterminée par l'État congolais dans lequel les industries doivent s'installer. Et quand ils s'y installent, ils ont beaucoup plus d'avantages. Même le dédouanement se font à l'intérieur. Mmh. Plus question de tracasserie avec un guichet unique. Et à ce moment-là, tout ce qu'ils amènent comme investissement, ces investissements sont protégés et ces investissements ont plusieurs avantages qui font que quand ils s'y installent, ils ne sont pas tracassés. Et voilà un peu ce qui se passe. Et dernièrement, comme je l'ai dit, vous aviez suivi, le ministre des Finances avait organisé un forum sur la fiscalité. Mmh. On veut bien produire une loi fiscale qui est incitative, c'est-à-dire qui ne tracasse pas les opérateurs économiques, les investisseurs. Je vais donner un exemple. Mmh. On va vouloir à ce que l'investisseur ne se retrouve pas devant plusieurs intervenants. Vous pouvez voir peut-être, soit si c'est la DGDA, ou une autre institution qui sera chargée de ça, c'est celle-là que vous voyez, et une fois par an. Une fois par an, par exemple.
Et non à tout moment, plusieurs intervenants qui viennent pour passer voir les taxes.
Exactement. Nous tendons vers là, et ça sera le guichet unique, tous ces services-là spécialisés. On va essayer de voir, on les concentre, et chacun sa part, mais l'intervenant est unique. Et à ce moment-là, l'investisseur ne fait pas face à beaucoup de personnes qui viennent chacune avec son humeur.
D'accord. Nous avons dans cette émission les auditeurs qui appellent pour poser des questions à l'invité. Nous avons Gaston qui nous appelle de Kinshasa. Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Moi, je pense que c'est un problème au niveau... Vous savez, le guichet unique a été créé. L'actuel guichet unique est limité à des problèmes. Je ne sais pas si l'initiative va tenir debout. Mais le problème qu'on a pu constater, ce qui fait que les affaires ne puissent pas marcher au Congo, et surtout les investisseurs, c'est la mentalité des Congolais qui sont censés animer la plupart d'initiatives, des institutions qui sont mises en place. Ces gens-là sont corrompus à tout moment et ils sont aussi la pauvreté accrue. Hein, bien qu'on peut avoir des initiatives par-ci par-là. Et surtout que les étrangers, la majorité des étrangers qui viennent, comprennent que les Congolais sont vraiment faibles devant l'argent et ils arrivent à nuire la population, l'État congolais avec la complicité de nos propres concitoyens. Bon, le problème, vraiment, si la mentalité, à mon avis, si les gens arrivaient à prendre conscience que la morale peut être au-dessus de tout, quelle que soit la situation qu'on traverse, on pouvait trouver gain de cause. Mais sinon, le milieu, sans vous mentir, est favorable, surtout aux investisseurs étrangers, parce que s'il y a possibilité de travailler, ne pas payer l'impôt, D'ailleurs, on crée la structure avec peu d'argent, hein, vous créez des structures, les impôts, les agents de l'État sont corrompus, lorsqu'ils passent pour des contrôles, ils sont corrompus par les soi-disant opérateurs. Donc, c'est sans vous mentir, les investisseurs profitent. Ça, personne ne peut l'ignorer. Les investisseurs profitent parce que les contrôles en matière fiscale n'est pas vraiment accru et les gens sont corrompus. Voilà l'État. Il y a un grand désordre dans ces champs-là.
Alors, quelle est la question que vous adressiez à monsieur le ministre?
Oui, je pense que le ministre devrait plus travailler dans le sens de...
lutter contre la corruption.
Oui, pas la corruption en soi, mais travailler dans le sens que l'État congolais puisse se retrouver, hein. Parce que si les recettes rentrent, si l'État se retrouve et que les Congolais eux-mêmes aussi cultivent cette mentalité-là de payer aussi l'impôt, les choses pouvaient aller dans le sens. Donc les ministres doivent travailler, à mon avis, dans le sens de pouvoir remettre l'État congolais dans ses droits et ne pas voir seulement l'aspect investisseur qui doit venir parce que ces gens-là viennent et ils s'enrichissent, hein, dans un peu du temps. Bon, moi, je pense
d'accord.
qu'il faut... Ce qui est en place déjà, ça va, mais il faut voir les choses dans le sens de pouvoir, dans le sens que ça soit bénéfique, hein, surtout à notre État, et la population va se retrouver s'il y a une bonne gestion.
Merci Gaston de Kinshasa. Que faire pour améliorer les climats des affaires en République démocratique du Congo? Jirès et Maka nous appellent des bandes de Doudouville. Bonjour Jirès.
Bonjour Jody, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je salue aussi l'invité. Je commence mon intervention par cette question que je pose en fait mais. Alors, pensez-vous vraiment qu'il soit possible de pouvoir améliorer hein, le climat des affaires tant que le fonctionnaire par qui l'argent passe sont sous-payés? Ça, c'est une question. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Il nous est arrivé une fois où nous avons été dans un service, générateur de recettes. Nous sommes allés pour payer les taxes. Alors, après le calcul... Et nous sommes allés pour payer les taxes ainsi que les agents de ce service. On a réalisé que vraiment la taxe était très exorbitante. Alors on a échangé pour un paiement forfaitaire. Imaginez si déjà les agents de l'État doivent accepter un paiement forfaitaire. C'est pour que ces paiements prennent quelle destination? Donc je pense qu'il est toujours possible qu'on puisse améliorer les paiements d'affaires, mais... Je crois que cela passe par beaucoup de préalables. Un des grands préalables,
oui.
C'est pouvoir d'abord améliorer les conditions des personnes qui manipulent cet argent-là.
D'accord. Merci, Jirès et Maka. Monsieur le ministre Marcel, vous avez suivi ces deux auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je voudrais d'abord remercier les auditeurs pour leurs questions. Monsieur Gaston de Kinshasa a été clair. Il est en train pratiquement d'ajouter à ce que j'ai dit. C'est vrai, la mentalité du Congolais est ce qu'elle est. En un mot, c'est tout simplement l'impunité. Vous savez, dernièrement ici, le chef de l'État a créé une commission qui est en train de passer presque dans toutes les provinces pour lutter contre
la corruption.
Et c'est pratiquement pour essayer de rejoindre notre ami Gaston qui vient d'intervenir de Kinshasa. Mm-hmm. La corruption, c'est vrai, c'est un fléau pour notre pays. Et... dire que les investissements ne profitent qu'aux étrangers, non. Vous savez, dernièrement, ici, il y a eu la loi sur la sous-traitance. C'est une loi qui, en principe, si elle est bien appliquée, elle permet aux petites et moyennes entreprises de la République de se retrouver. On peut créer la classe moyenne avec
les PME.
On peut donc créer la classe moyenne grâce à cette loi. Et je pense pour ma part que c'est vrai, on doit lutter contre la corruption. Et c'est ce qui s'est fait déjà, le chef est là-dessus. Mais il faut la mentalité, que la mentalité du Congolais puisse changer. Et pour que la mentalité change, vous verrez un jour, on va frapper une grosse légume, deux, trois grosses légumes qui sont trempés dans la corruption, que ce soit au niveau de services de l'État comme la DGDA, la DG ou autre. Et vous allez voir que tout va cesser.
Donc, parce que l'investisseur peut venir avec son projet. Ça arrive dans un bureau quelque part, on bloque les dossiers, on dit bon, il faut donner 40% ou 50%, sinon les dossiers ne passent pas.
Vous avez raison, ça se faisait, mais pour le moment, je crois qu'on est très vigilant, parce que les portes d'entrée maintenant pour des investisseurs ne sont plus multiples. Vous entrez, vous venez dans le domaine de l'agriculture, vous êtes avec le gouvernement, vous passez par le ministère de l'agriculture, vous passez par l'ANAPI, et là, c'est transparent. C'est transparent. On réduit de plus en plus cette corruption qui a été pratiquement érigé en mode de gestion, pour que c'est tout à fait formidable. Hein, quelqu'un vient avec son investissement, vous lui dites, voilà, pour investir, donnez-moi d'abord 10%.
10%.
Mais c'est un paradoxe.
Sinon, on bloque les dossiers.
Voilà. Mais je pense que pour le moment, on sent que de mieux en mieux, on est en train d'évoluer dans le sens tout à fait positif. Alors, Monsieur Giresse, se demande si on peut améliorer le climat des affaires.
Alors que les fonctionnaires ne sont pas bien payés.
Moi, je pense qu'il y a évidemment des efforts qui se font. Quand vous prenez les agents des services d'impôts, de la DGDA, de la DGRAD, ils ont ce qu'on appelle prime, qui est pratiquement rétrocédé, et le gouvernement fait un effort pour rétrocéder cette prime d'encouragement pour leur permettre de continuer avec la mobilisation. Mais on ne peut pas dire que c'est déjà mieux, mais au regard de l'économie de notre pays, il faut féliciter déjà les efforts qui se font, et nous espérons qu'au fur et à mesure, les choses pourront s'améliorer. Il ne faut pas qu'on puisse être pessimiste, il faudra absolument qu'on soit optimiste et qu'on puisse continuer avec le peu qu'on a, et on évolue jusqu'à ce qu'on va trouver le lendemain meilleur.
Voilà, il y a aussi un autre problème. Lorsque les investisseurs arrivent dans le pays, certains s'amènent avec la main d'œuvre venue d'ailleurs, alors qu'il y a il y a des Congolais aussi qualifiés qui peuvent travailler. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à cela?
Je pense que là, nous avons des lois tout à fait claires. Les lois limitent absolument le nombre de personnes qu'un investisseur doit amener. Et on préfère, aux compétences égales, qu'on puisse payer le salaire égal et qu'on puisse maîtriser ses charges en recrutant le plus possible au pays. Je pense que pour le moment, si vous allez dans les entreprises qui s'installent, vous allez trouver que le nombre des expatriés est de loin inférieur aux cadres nationaux. Donc il y a des efforts qui se font dans ce domaine. Mmh. Et bien sûr, auparavant, on pouvait trouver pratiquement une pyramide renversée, où vous trouvez plus d'expatriés que de nationaux. Pour le moment, allez faire un sondage dans toutes ces grandes entreprises, vous allez trouver que la tendance a baissé. Parce que nous avons beaucoup de cadres, des jeunes gens qui ont étudié dans leur pays, mais qui sont congolais. Et quand ils sont ici, quand ces expatriés-là ou ces investisseurs viennent, ils préfèrent les prendre pour faire fonctionner leurs entreprises. Donc je pense que les choses sont en train de changer au fur et à mesure.
Que faire pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans cette émission de La Vie au quotidien. Bidouaïa Symphorien nous appelle de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Symphorien.
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. J'ai deux petites questions à poser à notre invité par rapport à l'amélioration du climat des affaires en RDC. N'est-ce pas, Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, quels sont les efforts engagés par les gouvernements pour pouvoir encourager l'industrie locale? Parce que normalement, quand, par exemple, comme chez nous à Kanangake, pour les gens qui font, par exemple, des sommes techniques comme l'électronique, l'informatique, ils ont vraiment du mal à s'en sortir. Même dans les entreprises publiques, il n'y a même pas d'infrastructure qui puisse leur permettre de s'en sortir lorsqu'ils font leur stage. Donc, vous ne verrez pas, par exemple, pour ceux qui sont informatiques, par exemple, les réseaux comme à l'université, ils n'auront pas une entreprise dans laquelle ils peuvent aller faire la pratique vraiment professionnelle qui peut leur permettre de bien assimiler la matière. Et je voulais demander, même quand ces étudiants ici finissent leurs études, il n'y a pas tellement, on sent pas tellement l'encouragement du gouvernement pour pouvoir les pousser à créer même des petites industries qui peuvent faire émerger les pays. Bon, mes questions sont les suivantes. Quels sont les efforts que le gouvernement a engagés pour pouvoir faire améliorer l'industrie en ce qui concerne, par exemple, l'informatique et l'électronique au niveau national? La deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a à la base de la... Donc, par exemple, comme je prends un petit exemple. Les logiciels qu'utilisent la CENI, je ne sais pas s'il peut me préciser, c'est un Congolais ou c'est un expatrié qui l'a conçu. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que pour tous les logiciels, par exemple, qui permettent de gérer les grandes institutions de la République, sont conçus par les gens qui viennent derrière, même les gens qui ont étudié ailleurs, plutôt de donner ces marchés-là aux Congolais, alors que nous avons des universités comme l'Université de Kinshasa qui forment des informaticiens, des programmeurs qui sont aussi capables de concevoir des logiciels. Merci beaucoup.
Merci, Bidouaïa Symphorien. Pungu Joseph, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à notre invité, à tous les auditeurs de la radio de la paix. Et bon début de la semaine, vraiment, à tout le monde qui m'écoute à ce moment-ci.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, c'est ceci. J'aimerais demander à notre invité, quelle stratégie tu peux donner aux natifs de Maniema pour que notre province soit désenclavée? Parce que nous sommes dans une province enclavée. Il n'y a aucune... Toutes les choses ne marchent pas concernant les problèmes d'industrie. Pourtant, si le plan agriculture, rien ne marche pas. Si le plan même des industries, nous n'avons aucune même usine de transformation. Même, par exemple, ici chez nous, un sac de ciment, ça se vend à $25. Et ailleurs, il y a $10 parfois. Même un gobelet d'huile, si le plan marché d'alimentation, il n'y a pas moins de 400 francs. Est-ce qu'il peut y avoir quelques méthodes que l'invité peut nous donner pour que notre province aussi soit investie comme les autres provinces? C'était ça ma préoccupation.
Merci. Moupini, Thierry nous appelle de Goma. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Thierry.
Oui. Je voulais juste
Oui, parlez un peu plus fort, Moupini, Thierry. Oui.
Je voulais juste parler concernant le développement des milieux, parce que moi, je suis seulement.
Oui.
Mais je pense qu'on sait que c'est peut-être un pays qui ne veut pas venir.
Alors, en tout cas, on vous écoute difficilement, Thierry. Essayez de nous rappeler peut-être en utilisant un autre numéro, parce que là, on ne sait pas bien vous entendre. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Et encore une fois, je voudrais remercier les auditeurs pour leurs interventions. Je commence par Monsieur Bidoya de Kananga. Il parle des efforts. Quels sont les efforts
pour encourager les initiatives locales.
Oui, oui. Et il est surtout dans le domaine
de l'informatique
et de l'électronique. Voilà. Je pense que les efforts commencent par la formation. La formation, il y a beaucoup d'institutions universitaires qui forment nos jeunes Congolais et dans pratiquement la technique d'information et de la technologie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les encourager, surtout là à Kananga? Mais je pense qu'il faut s'organiser d'abord en coopérative. Vous devez vous regrouper ensemble. Et quand vous vous regroupez ensemble, parce que le domaine de l'industrialisation, c'est le domaine de l'innovation. Mmh. Et vous devez, à votre niveau là, à Kananga, vous dire qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous pouvons innover dans ce domaine-là. Et vous adressez, par exemple, votre demande ou un projet au Fonds de promotion de l'industrie et qui encadre les projets d'innovation. Et à ce moment-là, on vient, vous savez, c'est une nouvelle technologie qui nécessite que ceux qui l'ont maîtrisé puissent passer à l'innovation. Mmh. Et si vous n'avez pas innové, là, vous allez devenir juste un simple agent dans une entreprise. Vous êtes un encodeur, vous êtes pratiquement un comptable sur un logiciel qui a déjà été conçu à cet effet. Et il demande si pourquoi les logiciels de la CENI,
un logiciel conçu par un fils du pays ou
oui,
bien
c'est là, ça là je crois que l'auditeur n'a pas l'information. En fait, le logiciel de la CENI n'a pas été conçu à l'extérieur du pays. Il a été conçu par les Quinois du Centre national de traitement. Donc, ce logiciel n'a pas été conçu ailleurs. Et il peut le vérifier auprès de la CENI. Et je crois qu'à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Mais ils doivent se regrouper et faire une innovation. Et ils peuvent nous appeler, pourquoi pas. Nous pouvons descendre, nous, en tant que ministre de l'Industrie, pour apprécier leur projet et voir dans quelle mesure le soutenir pour qu'ils puissent l'exécuter.
Est-ce qu'il y aura des programmes, par exemple, des partenariats entre les hommes d'affaires sud-africains et les hommes d'affaires congolais?
Oui, dans ce domaine aussi. Parce que je me souviens quand on a été à Lubumbashi, dans les discussions, nous avons senti les opérateurs économiques qui parlaient. Il y avait aussi certains spécialisés dans ce secteur. Alors, ils peuvent s'approcher au ministère de l'Industrie et à la FEC. On peut les orienter, comme ça, ils peuvent signer un partenariat. Et surtout quand vous avez un projet qui peut être financé, à ce moment-là, on peut bien les soutenir pour que vous puissiez avoir des fonds et exécuter votre projet. Alors, Monsieur
Pungu Joseph dit qu'au Maniema, il y a rien. Le Maniema est enclavé, il n'y a pas d'industrie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour encourager les natifs du Maniema à aller investir?
Je crois là-bas. Qu'il a tout à fait raison. Et je donne raison à Monsieur Joseph. Et Monsieur Joseph, vous savez que dernièrement, ici, on a inauguré une grande université technologique au niveau de Kindu.
L'université Mapon.
Voilà, je pense que c'est le début de tout commencement. Parce que on aura les cadres là-bas qui seront formés. Et il y a l'agriculture. Parce que si nous voulons évoluer dans ce pays, nous devons plonger dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. Et il faudrait se regrouper. Vous savez, ce n'est pas facile que on dise on va installer un projet d'investissement là-bas. Un projet, mais il faut les études de faisabilité. Et c'est vous-même, les natifs, comme vous l'avez dit, vous qui habitez là-bas, qui devez dégager les opportunités qu'offre la province. Alors, il a donné l'exemple de la cimenterie. C'est vrai.
Les sacs de ciment coûtent 25 dollars.
Et il a là-bas. Raison, il a oui. raison. Présentement, là, je suis sur deux cimenteries. La cimenterie de Kisangani et la cimenterie de Louboudi, que nous sommes en train de chercher à mettre en place ensemble avec les investisseurs, les nouveaux investisseurs. Mmh. Et évidemment, les études pourront continuer. Est-ce qu'il y a des calcaires au Maniema? Et s'il y en a, pourquoi pas? Et si, par exemple, il n'y en a pas, il faut qu'on puisse aménager les autres cimenteries qui sont les plus proches, comme la cimenterie de Katana, la cimenterie, même la cimenterie là de Kisangani, si elle devenait opérationnelle, je crois que dans tout l'est de la République, le ciment va baisser. Mais pour développer Maniema, mmh. il faudrait que tous les fils et toutes les filles de Maniema se tiennent debout pour se plonger dans l'agriculture et ils seront soutenus par des projets qu'ils pourront élaborer eux-mêmes et on va soutenir ces projets-là. L'agriculture et l'agro-industrie.
D'accord. Clément Daye nous appelle de Kananga et Malunga de Manondouville. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo? Clément Daye, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Nkrasama. Bonjour, monsieur, à son excellence, monsieur le ministre.
On vous écoute.
C'est vrai que le sujet auquel est en train d'être traité par le ministre ainsi que les journalistes de la radio Capi, c'est un sujet pertinent qui nous intéresse davantage car c'est un sujet qui entre dans le cadre du développement ou quoi. Alors, je voudrais juste demander à notre invité, il est vrai qu'à tout moment que le forum sont vraiment organisés et il y a eu toujours eu certaines lois fiscales qui sont vraiment optées, juste qui peuvent permettre aux opérateurs économiques ainsi que les investisseurs à bien travailler et de quelle façon respecter normalement leurs limites. Alors je voudrais se demander à l'invité pourquoi à tout moment des lois fiscales ne sont pas respectées, que ce soit dans le camp des investisseurs ou parfois dans le camp des opérateurs économiques. Alors la deuxième des questions, pourquoi à tout moment qu'on a toujours parlé des investisseurs, je vois toujours les Sud-Africains qui interviennent à tout moment là. Alors pourquoi dans d'autres continents ou dans d'autres pays, ça n'intéresse pas vraiment les Congolais. Alors voilà le pourquoi. J'aimerais que l'invité puisse vraiment m'éclaircir pourquoi à tout moment on parle toujours des investisseurs Sud-Africains. Merci et puis bonne journée chez vous.
Bien. Malunga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à notre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, ça va. Je dis d'abord merci par le sujet vraiment qui nous intéresse. Vous voyez, pour donner l'occasion aux nationaux de se développer dans ces affaires, mais moi je vois qu'il n'y a pas encore la politique d'octroi de crédit. En plus que le crédit vraiment... C'est une bonne politique pour encourager les nationaux ou bien la population dans ces affaires. Il y a d'autres qui connaissent que le climat des affaires, c'est seulement les commerçants. Non. Toute activité que l'homme exerce dans son environnement, c'est une affaire. Alors, et ça doit être encouragé par son État. Mais l'octroi en code de crédit, en tout cas, n'existe plus dans notre pays. Si parfois ça existe, il y a la présence des figures. On doit regarder les figures qui doit recevoir et qui ne les doit pas. C'est ce qui fait à ce qu'il n'y a pas vraiment la progression dans ce sens-là. Vous avez souligné une bonne chose. C'est lorsque vous avez demandé à l'invité qu'il y a des étrangers qui viennent avec le projet et avec aussi ses agents. Ce n'est pas toujours les expatriés, même nous les nationaux. Vous voyez, je vais vous narrer une fois ici, lorsque nous avions une autre... aimable gouverneur est passé. Vraiment, je vous l'ai dit que des parts et d'autres, en tout cas, nous ont agressés socialement. Comme si ici à Bandundu, il n'y a pas quelqu'un qui peut travailler avec lui. pouvait, cette agression sociale, ça fait en sorte que la progression vraiment ne peut être se voir dans ce climat des affaires. D'où, pour moi, je vois ceci. Cette politique d'octroi de crédit, je dis, et l'invité, le ministre Son Excellence qui est là, encourager ça. Puisque le PME souffre, il se débrie, ils sont surchargés par ces taxes qui sont déjà dites par mes prédécesseurs. En tout cas, si c'est bien réglé, vous verrez que dans notre pays, il y aura un taux vraiment de croissance de cette affaire.
D'accord. Merci Malonga de Bandundouville. Pierrot Mwamba, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Pierrot Mwamba, bonjour.
Bonjour, je dis, c'est Théo.
C'est plutôt Théo Mwamba, d'accord. Quelle est votre question?
Ok, s'il vous plaît, je dis ceci. Je vous pose un peu une question. Je dis ceci. Je suis venu vous parler un peu de faire quoi, de l'amélioration un peu des climats des affaires là.
Oui.
Tout d'abord, avant de poser ma question, je dis ceci. C'est quoi l'impôt, s'il vous plaît? Je m'adresse un peu à l'invité. Parce que nous payons les impôts pour les infrastructures, pour des hôpitaux et pour que nos parents touchent un peu le salaire. Mais quand nous constatons, on ne voit rien sur le plan. Tout ne marche pas. Tout ne marche pas. On va continuer toujours à payer les impôts et les taxes sur base de quoi? Et voici ma question est la suivante. Pourquoi le cadre macroéconomique n'influence pas sa capacité dans les impôts et taxes en République démocratique du Congo? Merci.
Bien, merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Oui, merci à tous les auditeurs. Je commence par Monsieur Clément de Kananga. Il dit pourquoi la loi fiscale n'est pas respectée? C'est ça sa question essentielle. Mmh. Alors que à tout moment, quand les investisseurs viennent, on parle d'une loi, même dans des forums. Oui, je voudrais tout simplement dire que nous l'avons épinglé dès le départ. Le problème dans notre pays, est jusque-là, c'est l'impunité. La loi existe bel et bien. Et ce n'est pas le ministre des Finances ou le président de la République qui va se retrouver aux frontières. Vous arrivez aux frontières, vous trouvez les agents de la DGDA, et ce sont eux qui reçoivent, n'est-ce pas, en ce qui concerne les importations. Et pour les autres impôts, vous avez la DGI et vous avez la DGRAD. Mais ce sont ces organisations, ces administrations qui sont chargées de faire respecter la loi. Et on fait tout pour les encourager à travers les primes. Je pense que quand on change les dirigeants à la tête, c'est pour que ces dirigeants-là puissent encadrer les travailleurs, qu'ils encadrent tous ces gens-là, qu'ils fassent respecter la loi. La loi doit être respectée et par les nationaux et par les investisseurs qui viennent de l'étranger.
Et pourquoi ils font pas respecter les lois? Il y a beaucoup de fraudes au niveau des frontières.
Vous savez, la fraude n'est pas légale, n'est-ce pas? Quand on dit la fraude, ça dit ce sont des choses qui se font dans le ténèbre, sans respecter la loi. Et c'est là que j'ai dit tout à l'heure que c'est pour cela que les agents qui sont là, commis aux récoltes de ces impôts et taxes, ce sont les seuls qui doivent faire imposer cette loi-là. Et de temps à autre, bien sûr, ils les font, mais il y a toujours ce qu'on appelle les brebis gareux qui sont en train d'échapper dans les émails et qui sont en train de favoriser la corruption. Mais sinon, je sais que la loi est respectée dans une certaine mesure, mais il faut encore des efforts, surtout avec la lutte contre l'impunité.
Mais est-ce que tous ces services savent déjà qu'il y a des exonérations pour les hommes d'affaires qui apportent, qui amènent les machines, des équipements, il y a des exonérations pour eux?
Ils le savent bien parce que la procédure pour un investisseur qui vient, il ne commence pas directement par la douane. Il passe au ministère spécialisé, il passe à l'ANAPI et tous les dossiers complets est élaboré. Et c'est ces dossiers-là qu'on transfère au niveau des services des douanes qui ne font qu'exécuter. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème parce que toutes les dispositions sont prises en amont. Et quand on arrive en aval, les histoires arrivent et ces histoires-là vont trouver déjà tout un dossier complet sur la table de nos amis de la DGDA. Alors,
il dit pourquoi toujours les hommes d'affaires sud-africains, on ne parle pas des autres, les hommes d'affaires venus d'autres pays.
Non. Ici, je parlais bien d'un protocole d'accord qui existe entre nos deux chefs d'État. Mais il n'y a pas que les hommes d'affaires sud-africains. Vous savez vous-même, On parle souvent ici chez nous des Chinois. Les Chinois ne sont pas les Sud-Africains. Et, mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Tous les pays d'Europe, pour la plupart, ont leur façon de pouvoir investir dans les pays. Ils préfèrent d'abord s'interposer ou s'ingérer dans la politique avec des conditionnalités qui ne sont pas gagnant-gagnant. Et en fin de compte, ils se retirent. Mais pour ceux qui veulent bien investir, ceux qui ont le goût du risque, comme les Chinois, ils sont très nombreux ici. Et même aussi certains pays de l'Asie, il y a beaucoup d'investissements. Même les pays comme l'Égypte, ils sont en train de venir. Et donc, il n'y a pas que les Sud-Africains, mais ici, c'est dans le cadre d'un protocole d'accord qui a été signé. Mmh. Dernièrement, j'étais à Lusaka. Au retour, j'étais avec l'ambassadeur du Kenya, qui tient aussi à ce que la République démocratique du Congo puisse signer un protocole d'accord bilatéral avec le Kenya.
Le Kenya.
Pour aussi protéger leurs investissements. Donc, chers amis, il n'y a pas que les Sud-Africains. Il y a aussi
plusieurs autres nationalités.
Plusieurs autres nationalités.
Malonga a dit, d'après lui, il parle de la politique d'octroi des crédits. Il y a des nationaux qui ont des bons projets, qui ont des petites et moyennes entreprises, mais qui n'ont pas assez de moyens pour développer leur business.
Et je crois que M. Malonga a tout à fait raison. C'est dans notre pays, le problème, c'est au niveau du crédit. Où est-ce qu'il faut obtenir le crédit? Quand vous vous adressez à une banque, c'est à un taux prohibitif. Or, pour promouvoir les petites et moyennes entreprises, il faut qu'ils accèdent au crédit. Le fonds de promotion de l'industrie, qui est le bras sécurier du gouvernement, qui en principe a pour vocation de financer les petites et moyennes entreprises, connaît des problèmes très sérieux de gouvernance. Et au moment où nous sommes en train de parler avec vous, avec la nouvelle direction qui a été nommée par le chef de l'État, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Malheureusement, c'est au moment où les affaires chutent. Mais sinon, les efforts sont en train d'être fournis pour reconstituer les moyens et à ce moment-là, procéder au financement des petites et moyennes entreprises, mais le financement qui se classe dans le cadre des chaînes de valeur. À ce moment-là, quand on est dans une chaîne de valeur, les petites et moyennes entreprises se présentent à tous les niveaux et dans le cadre de la sous-traitance, et à ce moment-là, ils pourront bénéficier de ce financement-là. Mais il y a aussi au niveau du ministère ou du gouvernement de la République, à travers mon ministère, nous sommes en train de créer la banque d'investissement et de crédit, la banque d'investissement et de garanties publiques. Et nous, la procédure est déjà très avancée. Mmh. Il y a déjà un cabinet qui est retenu, qui va procéder aux études de faisabilité. C'est pour répondre justement à ces préoccupations de crédit. Parce que tant que nous-mêmes, nous ne mettrons pas de l'argent à la disposition des petites et moyennes entreprises, eh bien, ça sera difficile.
Et surtout que vous encouragez les gens à se regrouper, voilà, à mutualiser les compétences.
Voilà, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et nous sommes nous-mêmes déjà au niveau du ministère de l'Industrie en train de confectionner ce nombre de projets. Et ces projets-là que nous faisons ne seront pas portés par nous en tant que gouvernement. Ce sont les privés qui vont porter ces projets, mais ces projets, et l'État va les accompagner pour obtenir des financements et tout en respectant la loi sur la sous-traitance. C'est là pour chercher à favoriser les petites et moyennes entreprises. Mmh. Voilà.
Voilà, il y a Théo Mwamba de Kinshasa qui dit c'est quoi l'impôt et pourquoi les cadres macroéconomiques n'influencent pas les impôts, tout ça.
Oui, Monsieur Théo, merci beaucoup pour votre inquiétude. En fait, l'impôt, c'est un prélèvement qui s'est fait d'office par l'État. Et cet impôt sans contrepartie, mais il y a toujours la contrepartie. Moi-même, je suis chef des travaux à l'Institut supérieur de commerce. Et qu'est-ce l'impôt, c'est ce prélèvement-là. Il s'est fait d'une manière, sans consulter. Et on vous demande de payer. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est toutes ces routes que nous voyons. C'est tous ces équipements que nous avons dans les hôpitaux et à gauche, à droite. Le problème, c'est quoi? Notre pays, c'est un continent. Comme c'est un continent, si vous prenez seulement ce qu'on a fait comme infrastructure routière et vous transposez ça dans un petit pays où il y a, qui a par exemple une superficie, non pas de la ville province de Bandundu, mais vous allez voir que on a beaucoup fait. Mais parce que nous sommes dans un pays continent, c'est difficile, c'est beaucoup, mais par rapport à la dimension de notre pays, oui, on sent que ce n'est pas encore significatif. Donc, il ne faut pas dire que l'impôt qu'on perçoit ne fait rien, non. L'impôt fait quelque chose. Mais il faut. Alors, cadre macroéconomique. Non. Qu'est-ce que c'est le cadre macroéconomique? Ce sont les indicateurs. Ces indicateurs-là qui permettent au pays de pouvoir les maîtriser afin de bien réaliser les économies. Alors, ça signifie que tout ce que nous faisons ici, c'est toujours dans ce cadre-là, macroéconomique. La maîtrise de tous ces indicateurs.
Alors, pour terminer, monsieur le ministre, nous avons parlé aujourd'hui de l'amélioration des climats, du climat des affaires. Vous avez dit, premièrement, il faut arriver à réduire les tracasseries fiscales. Et ça, vous vous attelez à cela. Il faut également réduire le nombre des intervenants. Et puis, il y a des exonérations qui sont accordées aujourd'hui aux investisseurs qui arrivent avec du matériel. Donc, ils n'auront rien à payer au niveau de la douane. Et ça va entrer sans problème. Et puis, le gouvernement disponibilise aussi des terres à accorder gratuitement aux investisseurs qui veulent venir dans notre pays.
Tout à fait.
Y a-t-il autre chose au-delà de tout cela?
Je crois que vous avez tout résumé. Je vous félicite parce que c'est comme si vous êtes un grand professeur. Vous avez résumé en quelques mots tout ce que nous venons de dire. Je crois que c'est l'essentiel.
Bien, merci beaucoup, monsieur le ministre Marcel Ilunga-Léou. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.